Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, mon invitée est une femme d'inspiration. L'artiste Hélène Franqueur mesure, plie, colle, embosse, presse. Elle enjolive les livres avec soin. Elle croit que les arts rendent le monde plus beau et apporte sa pierre en rendant les livres plus chics. Rencontre avec une reliéresse passionnée. Bonjour Hélène Franqueur.
Bonjour.
Bienvenue à Vivement les femmes et c'est avec joie que nous vous recevons aujourd'hui. Vous avez découvert la reliure en 1985 à l'atelier de Léon Gamache à Chicoutimi, où vous avez suivi vos premiers cours. Puis, en 1992, vous ouvrez votre premier atelier dans la ville de Québec. Depuis, vous poursuivez votre formation en autodidacte et de façon plus formelle auprès de maîtres relieurs de Montréal, de Toronto, des États-Unis et d'Europe. Mais avant de parler de votre passion, on va parler un peu de votre carrière. On va parler aussi, on va essayer de comprendre votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, dans votre bel atelier à Saint-Fabien-sur-Mer?
Oui, oui, c'est vraiment un très, très beau résumé. Ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est un cumul de tout ce que j'ai fait avant. De découvrir la reliure.
Alors, vous êtes née à Québec.
Oui.
Vous avez grandi au Saguenay.
Eh oui, c'est ma terre d'élevage que je dis avec affection. Oui, oui, j'ai été élevée.
OK.
J'ai été élevée là, après un très court séjour à cette île.
Oui.
On est revenu à Québec.
À quelle année? Vous aviez quel âge?
Ah, j'étais toute jeune. Quand on est arrivé au Saguenay, j'avais 6 ans, mais avant ça, on a fait un très court séjour à cette île. On est revenu à Québec, ensuite le Saguenay, définitivement. Et puis, de là, je me suis mariée, je suis partie aux Îles-de-la-Madeleine.
Aux Îles-de-la-Madeleine?
Mais avant les Îles-de-la-Madeleine, il y a eu Baie-Comeau. Ensuite, les îles. Oui, je vis dans mes, dans mes bagages. Et puis, un retour à Baie-Comeau. Et puis, ensuite, retour à Chicoutimi, Québec. Alors, au fil de tous ces déménagements-là, il y a eu des emplois.
Oui.
Et il y a eu des champs d'intérêt.
Mm-hmm.
Parce que j'ai toujours été attirée par le travail manuel.
D'accord.
Alors, pour gagner ma vie, j'ai été secrétaire, assistante comptable.
Ah oui!
Oui, mais je faisais toujours des allers-retours avec les arts.
Ah oui, d'accord. Donc, les arts, est-ce que c'était pour vous un passe-temps? Vous gagnez pas votre vie
avec ça. Non, je pouvais pas
à
l'époque. Non, je pouvais pas à l'époque, mais je m'intéressais à tellement de choses. Puis c'était bien avant Internet, alors il fallait acheter des livres ou alors suivre des cours et puis se lancer dans toutes sortes de choses. Je pense que j'ai un brin de folie qui a toujours frétillé en moi. J'ai même fait de la teinture naturelle avec les plantes de la Côte-Nord.
Wow.
En important la laine de l'île du Prince-Édouard.
Oh, OK, d'accord.
Oui,
oh.
Alors je teignais avec des plantes. Ça, oui. J'aimais ça beaucoup. J'avais un marché captif avec les infirmières de l'hôpital qui, pendant leur shift de nuit, tricotaient avec la laine.
Ah oui? Oh,
oui,
wow!
Oui, exactement.
Alors, vos études, si je comprends bien, vous les avez faites un peu partout?
En fait, principalement au Saguenay.
D'accord.
Alors, j'ai fait l'école élémentaire, secondaire. J'ai vécu l'arrivée des polyvalentes. J'ai fait le cégep.
Oui.
Puis ensuite, à 21 ans, je me suis mariée, puis je suis partie vivre ailleurs. Ça a été Baie-Comeau et les îles de la Madeleine.
Et comment on se sent, Hélène Francoeur, quand on est artiste dans l'âme, hein, on peut dire ça,
oui.
Et qu'on est secrétaire, est comptable?
Oui, ça a apporté de la folie dans le bureau, parce que j'ai l'impression d'avoir un fond joyeux. Mm-hmm. Alors, même si on est dans les chiffres et le papier...
Oui.
Déjà, je me préparais peut-être à être lieur en pliant les enveloppes, en pliant les lettres et en les mettant dans les enveloppes. c'est probablement pour ça que j'ai fait l'aller-retour entre des métiers ou du travail pour gagner ma vie et les arts.
Oui.
J'avais vraiment besoin des deux. Je me nourrissais au contact des artistes.
Oui.
C'est comme ça qu'à Baie-Comeau, j'ai fait de la céramique. J'ai aidé une céramiste qui était déjà bien établie.
Mm-hmm.
Et c'est ça, j'ai appris la teinture, j'ai fait de la couture, de la broderie.
Oui.
C'est une espèce d'aller-retour perpétuel entre des emplois pour gagner ma vie.
Oui.
Et l'exercice d'un art ou d'un artisanat pour le plaisir de la découverte aussi, mais pour combler cette attirance-là que j'ai toujours eue.
Et est-ce qu'on peut dire que vous avez travaillé quand même à temps complet pendant plusieurs années?
Oui, oui.
OK. Combien d'années?
Ah, mais attendez, quand je suis arrivée aux îles de la Madeleine, j'avais 21 ans. J'ai commencé à travailler comme secrétaire. Ensuite, Baie-Comeau, la même chose. Mm-hmm. Ensuite, je suis revenue, puis je travaillais à temps plein à l'époque. Là, c'était vraiment pour gagner ma vie. Et en revenant à Chicoutimi, là, j'ai eu la chance de faire un certificat en administration à l'université, parce que j'ai quitté le cégep quand je me suis mariée, donc il n'y a pas eu l'université à ce moment-là. Puis ensuite, je me suis ramassée, façon de dire les choses, j'ai fait le cours pour devenir courtier en valeur mobilière.
Oh, okay.
Faut le faire, on est loin de l'art.
Oui, absolument.
Mais c'était le côté humain qui m'intéressait, la gestion des ressources humaines, le contact avec la clientèle.
Ah oui, d'accord.
Mm-hmm. Alors, tout ça me préparait de toute façon à
votre métier. Oui. Mm-hmm. Mais vous ne vous sentiez pas... moi, ça m'intrigue parce que j'ai également été secrétaire dans une autre vie.
Oui.
Et je me sentais malheureuse.
Ah non, pas moi.
Je me sentais malheureuse parce que, justement, je ne faisais pas d'art à côté de ça. Il n'y avait pas de complément. J'avais l'impression de passer à côté, de ne pas être dans ma vie. Vous n'avez jamais eu ça?
Non, je n'ai pas eu cet inconfort. Peut-être parce que le soir et les fins de semaine, je trouvais mon compte ailleurs. Mais il y a aussi que j'ai été la première surprise. J'ai été très heureuse de travailler dans les bureaux. J'aimais le contact humain. J'aimais déjà voir de quelle façon je pouvais améliorer les choses, faire que ça soit plus fluide.
Oui.
Ça aussi, ça m'a suivi toute ma vie.
Mm-hmm.
Ce qui fait que finalement, le travail de bureau, ça me convenait. Il y avait aussi quelque chose dans le côté méthodique, l'ordonnance des gestes qui fait qu'on arrive au résultat prévu ou souhaité.
Et que vous retrouvez maintenant. Et rapidement, vous avez rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle M. Gamache.
Ah oui, mon premier.
Ça a été votre premier?
Mon premier relieur.
Ah oui, d'accord.
Ah oui,
Et injecté, insurgé?
C'est vraiment tombé en amour.
Oui.
C'est arrivé chez lui avec une pile de feuilles. Puis apprendre, c'est ma sœur Annie qui m'avait dit que oui, ces lettres-là, je pouvais les faire relier. Va voir M. Gamache, il va en faire un livre. C'est la première porte qui s'est ouverte dans ma tête. Mais j'ai dit, c'est extraordinaire, on peut faire un livre avec des feuilles. J'ai toujours aimé la lecture, mais j'avais jamais réfléchi à ce qui est derrière le texte.
Cette année, Hélène, vous avez célébré votre 23e anniversaire de rencontre avec Denis Larocque, votre conjoint. Denis est photographe.
Mm-hmm.
Comment ça se déroule au quotidien, un couple d'artistes? Est-ce que vous avez des projets communs?
Notre principal projet commun, c'est la vie ensemble, la vie au quotidien ensemble, en pratiquant chacun notre métier, notre profession. On a rarement des projets communs, mais on est régulièrement en interaction. Parce que, par exemple, mes projets communs, finalement, mon site Internet, c'est lui qui l'a fait. Donc, c'était, j'imagine, un projet commun.
Oui.
C'est Denis qui photographie toutes mes reliures qui s'en vont en exposition ou qui ont été affichées sur mon site Internet. Je le consulte régulièrement parce que son œil de photographe est très différent du mien.
Mm-hmm.
Et ça, c'est pour le côté art ou artiste.
Oui.
Et le côté humain, émotion, amour, c'est quelque chose de très vivant parce qu'on vit dans la même maison.
Oui.
On a toujours vécu dans la même maison. Donc, on travaille chez nous.
Oui.
On se croise, on s'entrecroise au gré des repas, des clients qui viennent nous voir, des projets,
oui.
de nos espoirs, de nos déceptions.
Mm-hmm. Ah, donc, vous parlez le même langage.
Oui. On est très différents l'un de l'autre et on s'estime chanceux de durer aussi longtemps et d'être aussi heureux ensemble.
Mm-hmm. Oui, c'est une chance.
Oh oui, c'est vraiment
une
chance.
Mais ça se travaille, hein? C'est une chance qu'on travaille, qu'on crée.
Oui, oui. Oui, exactement, oui.
Oui, c'est ça. Et cette rencontre tardive, vous avez dit quelque chose de formidable. On avait le cœur fatigué. Quand on s'est rencontrés.
Oui.
C'est tellement beau. Et qu'est-ce que c'est pour vous, un cœur fatigué? Et comment on se fatigue le cœur? Par des échecs amoureux?
Oui, des échecs amoureux. Denis, de son côté, et moi, du mien, on a eu une vie, je dirais, d'émotions chaotiques. On a vécu, moi, de mon côté, 4 vies de couple. Denis, la 5e. Et tomber en amour, c'est agréable. Avoir des peines d'amour inconsolables, c'est très difficile.
Oui.
Et donc, c'est ça. Quand on s'est rencontrés, on était déjà d'un certain âge, mais on avait vraiment le cœur fatigué. C'est pas qu'on n'y croyait plus, mais chacun de nous, de son côté, avait eu le goût d'une pause.
Mm-hmm. Oui.
Et ça a été vraiment un hasard qu'on se trouve. C'est un blind date.
Pour vrai?
Alors que j'avais toujours refusé.
Ah ben oui?
Oui.
Je peux comprendre de par votre personnalité que c'est
oui,
pas votre...
pas du tout. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me poussait à accepter. Mm-hmm. Et j'ai accepté ce rendez-vous-là qu'un couple d'amis mutuels nous a organisé. Et ça a été...
Ah, wow!
On s'est jamais laissé depuis.
Et vous avez décidé ensemble d'aller vivre à Saint-Fabien-sur-Mer.
Oui.
Donc,
oui.
Vous étiez tous les deux à Québec.
Oui, on était déjà à Beauport.
D'accord.
Déjà depuis plusieurs années. Et on cherchait depuis des années à s'établir le long du fleuve, mais c'était pas possible. C'était toujours hors prix parce qu'au niveau revenus, deux artistes qui vivent ensemble, ce sont des revenus qui sont fluctuants.
Oui.
Et puis, on a eu une occasion absolument incroyable de pouvoir s'établir ici. Puis
mm-hmm. Et la transition, vous avez dit, elle s'est faite sur 2 années.
Oui. À partir du moment où Denis m'a dit qu'il était plus heureux, puis ça se voyait qu'il était plus heureux à Saint-Fabien qu'à Beauport, je me suis dit, bon, il faut y aller. Mm-hmm. Mais moi, j'avais des élèves, j'avais toute ma clientèle. Denis était déjà plus proche de la retraite. Moi, j'étais encore vraiment très active. J'étais pas prête à quitter, mais je cherchais comment quitter. Parce que mes articulations vieillissaient aussi avec les gestes répétitifs.
Mm-hmm.
Alors, je me disais, tiens, la vie m'apporte l'occasion de changer ma pratique en changeant de lieu.
Oui.
Dans la mesure où je peux continuer à avoir un atelier,
mm-hmm.
je pourrais continuer à travailler, à enseigner, mais en étant plus douce pour mes articulations.
Oui, d'accord. Et à 70 ans, vous avez dit... Une autre belle phrase. Notre projet, c'est de vivre très vieux et de mourir en même temps chez nous en dansant.
Oui, un soir après souper très tard.
Vous dansez sur quoi, Hélène Francœur?
Oh, sur la lumière qui est belle, sur le paysage. Quand on se retrouve à la cuisine, s'il y a une musique, quelque chose qui joue, qui nous tente... On se rapproche, on danse. Et puis, c'est notre projet. On s'est dit, bon, c'est comme ça qu'on aimerait mm-hmm. changer de niveau quand ça sera le temps.
Ah oui, ensemble.
Oui.
Et qu'est-ce que représente la mort pour vous, Hélène?
Ah là là, c'est difficile à décrire. En fait, j'y pense pas très souvent. Je l'ai côtoyé à plusieurs reprises. Je pourrais répondre à la question autrement. Je souhaiterais qu'on accorde autant d'importance à la mort puis à l'approche de la mort qu'on en accorde à la naissance. Prendre soin des gens qui sont malades, prendre soin des gens qui sont en fin de vie, faire que la mort soit la plus douce possible.
Oui. Est-ce que vous croyez que, en fait, c'est seulement le corps qui meurt et que l'âme reste encore vivante?
Moi, j'ai l'impression que je vais m'en retourner à l'énergie centrale que je ne peux pas définir autrement, mm-hmm. d'où je suis sortie à un moment donné quand je suis venue au monde, que je sens autour de moi souvent et vers laquelle je vais retourner un jour.
Mm-hmm. Et est-ce que vous croyez que Denis vous sent aussi la même... cette même sortie-là? Vous la voyez ensemble, mais est-ce que la vision est la même?
Je ne suis pas certaine. Il la voit certainement à sa façon, étant quand même assez différent de moi, mm-hmm. et beaucoup plus émotif.
Oui. Et dites-moi, est-ce que le bord du fleuve change quelque chose dans votre relation?
Ah oui,
certainement.
Dans notre relation, oui, puisque chacun de nous se trouve changé par cette proximité-là de la nature. Mm-hmm. Chacun de nous deux est heureux et donc le couple est encore plus heureux qu'il l'était.
Et lorsque vous avez quitté Québec et vous êtes arrivé à Saint-Fabien-sur-Mer, vous mm-hmm. avez dû... élaguer, hein, parce que la maison était
oui.
plus petite.
Oui.
Et vous avez décidé de garder seulement les trésors.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous un trésor?
C'est pour ça qu'on a pris 2 ans pour faire le processus aussi, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets dont on se servait dans le quotidien pour notre travail, mais pour la vie de tous les jours aussi. Et comme on déménageait, on partait d'une maison de 10 pièces, un grand bungalow, pour s'en aller dans une toute petite maison de 2 pièces plus mon atelier.
Oui.
Il a fallu choisir les choses qui étaient les plus importantes à nos yeux.
Mm-hmm.
Puis le reste, ben, on s'est dit, on va donner, vendre, faire que ça puisse servir à d'autres.
Et est-ce que ça a été difficile?
Oui. C'est pour ça qu'on a pris 2 ans pour le faire, parce que ça fait beaucoup de ficelles à couper. Alors, on en coupait un certain nombre par jour, puis on attendait au lendemain pour faire autre chose.
Oui.
En faisant confiance à la vie aussi, qui allait nous amener à faire ce processus-là de la façon la plus harmonieuse possible.
Mm-hmm. Encore, on a débuté l'émission en parlant, en fait, de la découverte de la reliure avec M. Gamache au Saguenay. Vous êtes passionné de la reliure depuis 35 années.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui a suivi cette rencontre-là?
C'est comme quand on tombe en amour. Tout ce qui déboule de ça, c'est à la fois des choses qu'on n'imagine pas, puis des surprises qui nous arrivent, des choses qu'on souhaite voir arriver aussi. Alors moi, je suis carrément tombée en amour avec la reliure un après-midi à l'atelier de M. Gamache, qui était à Chicoutimi à l'époque. Je venais de revenir vivre à Chicoutimi et j'avais dans mes boîtes de déménagement un dossier avec des lettres d'amour que j'accumulais.
D'accord.
Que je déménageais comme ça avec moi, de déménagement en déménagement.
Oui, de déménagement en déménagement, oui.
Et puis, il y a ma sœur qui est avec moi, ma sœur Annie, à qui je demande, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, ben, elle me dit, c'est comme ça que ça a commencé, va voir M. Gamache. Alors, je suis allée et je suis arrivée à un après-midi chez M. Gamache où c'était relativement tranquille. Il pouvait ouvrir son comptoir, relever le panneau de son comptoir puis me faire entrer dans son atelier. Mais là, j'ai découvert. D'abord, c'était dans l'ancienne gare de Chicoutimi,
oh, wow.
qui est un milieu, une architecture magique.
Mais oui, déjà.
Des grandes fenêtres, la vue sur la rivière. Et là, je vois des piles de feuilles, du carton, de la colle, ça sent bon. Lui, il a l'air bien.
Oui.
Et je lui donne la pile de mes lettres et je lui dis, ma sœur m'a dit que vous pouviez faire un livre avec ça. Il me dit, mais bien sûr. Mais puis là, il a dû voir dans mes yeux à quel point j'étais intéressée.
Passionnée,
puis il avait
oui,
le temps.
Oui.
Ben, il dit, je vais vous montrer. Alors, il m'a montré comment on pouvait, rapidement, comment on pouvait coller un livre, comment on pouvait coudre. Alors, j'ai vu les outils, le cousoir, le fil. Puis là, il commence à m'expliquer plein de choses. Je voulais plus que ça arrête.
Non, je comprends. Et c'est là que vous êtes tombée en amour.
Oui. Et puis là, continuant à avoir l'intérêt que j'avais dans les yeux, il me dit, je donne des cours le samedi matin. Ah, je me suis inscrite tout de suite.
Oui.
Et tous les samedis matins pendant une année, je suis allée suivre ses cours de reliure. Puis au bout d'un an, lui nous avait montré tout ce qu'il avait à nous montrer. Alors, il nous dit, vous pouvez continuer à fréquenter l'atelier. Vous pouvez venir réparer des livres que vos amis vous confient ou les vôtres. Puis je vais continuer à vous montrer.
Oui.
Et je me suis dit, oh, je rêve de faire ça.
Mm-hmm. Et vous dites, on apprend de maître à apprenti.
Oui, malheureusement, il n'y a pas d'école de reliure au Québec.
Ah.
Alors, il faut trouver quelqu'un qui veut bien nous montrer. Ce n'est pas tout le monde qui a le goût de montrer, ni qui est habile à montrer. Parce que enseigner, c'est aussi une façon de parler, une façon de prendre soin de l'élève, de lui montrer le chemin qui peut être parcouru. Et bon, j'ai été chanceuse parce que, après M. Gamache, là, j'ai décidé que je me lançais en reliure.
C'était, ah oui, c'est là que vous avez décidé?
C'était un peu fou. Alors, je quitte Chicoutimi, je m'en viens m'établir à Québec. Entre-temps, j'étais tombée en amour, pas juste avec la reliure, mais avec un homme.
Oui.
Et je suis venue m'établir à Québec. Et dans un coin de la cave, comme ça arrive souvent quand on commence en reliure, on s'installe dans une cave, le plancher est solide, nos outils sont lourds.
Oui.
Alors, j'ai commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Et puis, je me suis dit, si au bout d'un an, je réussis pas à gagner assez pour pouvoir mettre à manger sur ma table et payer un toit sur ma tête, je retournerai secrétaire ou je ferai autre chose.
D'accord.
J'avais une porte de sortie.
Oui. Et je voudrais soulever quelque chose qui m'a vraiment intéressée, c'est que vous apposez à votre nom le titre « reliéresse ».
Ah oui.
c'est un mot qu'on ne trouve pas, en fait, en référence contemporaine.
Non, il est tombé en désuétude, malheureusement. Au Moyen Âge, c'était « reliéresse », comme on disait, « pécheresse »,« demanderesse »,« seigneuresse ».
Okay.
C'était l'habituelle forme féminine de plusieurs noms de métiers.
Donc, ce mot-là, déjà, cette
appellation... Il a déjà existé,
okay.
oui. Puis quand j'ai réalisé que l'Office de la langue française me recommandait fortement de dire « relieuse », moi, j'aimais pas ça. J'avais l'impression d'être une machine, comme une perceuse ou une perforatrice. En tout cas, j'aimais pas ça du tout. Et en faisant quelques recherches, j'ai vu que anciennement, on disait reliéresse.
Ah, voilà.
J'ai même écrit à l'Office de la langue française.
Pour vrai?
Ils m'ont gentiment répondu. On vous remercie, Madame Francoeur, mais non, c'est relieuse qu'on doit dire. On comprend le contexte. C'est ça, mais
vous insistez, hein?
Oui.
C'est ce qu'on retrouve, d'ailleurs.
Avec un clin d'œil, je le dis gentiment, puis j'explique pourquoi.
Oui, mais c'est très beau. Je trouve ça exotique, moi. Je pense que vous avez décidé de prendre ce nom-là.
Non, pas du tout. C'est un lien avec le passé pour continuer à faire vivre
oui.
ce qui a déjà existé.
Ah, la transmission, hein, c'est important pour
oui.
vous.
Oui.
Alors, Hélène, vous avez des anecdotes. Vous m'en avez raconté quelques-unes avant l'émission.
Oui.
Moi, j'en voudrais quelques-unes, des anecdotes de votre travail, de votre enseignement.
Oui, parce que tout se passe pas toujours très bien en atelier. Il nous arrive toutes sortes d'accidents. Quelquefois, c'est parce j'étais trop fatiguée, mais j'ai continué à travailler ou j'étais distraite par autre chose. Alors... il est arrivé un jour, à ce moment-là, j'étais à Québec, rue Fraser. Mon atelier est encore dans la cave. Il y a un client qui m'apporte le livre qu'il venait d'écrire, qui venait de sortir en librairie, pour que je le relie. J'avais un budget confortable. Bon. Alors, je viens pour retailler le livre, le recouper dans la guillotine.
Oui.
Mais j'ai pas vérifié les mesures. Je coupe le livre en deux.
Ah non.
Carrément en deux.
Oh.
Et j'avais déjà les deux mains sur le couteau et je descends le couteau quand je réalise que le livre va être coupé en deux, mais c'est trop tard. Avec la force, le geste était déjà enclenché. Oh. Le livre a été coupé en deux. Heureusement, il venait de sortir en librairie.
Vous êtes allée en acheter un?
Il y avait une librairie rue Cartier. Je suis allée acheter un livre, je suis revenue. J'ai recommencé le travail. J'ai pas fait beaucoup d'argent sur ce contrat-là.
Non, j'imagine.
Mais j'ai pris une leçon.
Et aussi, j'ai entendu dire que vous avez mangé de la colle.
Oui, j'ai déjà mangé de la colle. Alors, en reliure...
Comment on fait ça?
Par distraction. On travaille avec différents types de colle en reliure. Puis il y a une colle qui s'appelle la colle mélange. Alors, c'est une partie de colle plastique, de colle vinylique, qu'on mélange à de la colle de pâte qu'on fait soi-même avec de la farine ou de la fécule. On mélange les deux, ça fait de la colle mélange et ça se conserve au réfrigérateur. En général, par mesure de sécurité, on va mettre un petit morceau de papier rouge ou un collant, quelque chose pour dire non, c'est pas de la nourriture. Moi, j'avais rangé ma colle dans un pot de tzatziki.
Oui.
Je mets ça dans le frigo. C'est une belle journée d'été, il fait chaud. Je me sers un verre de vin pour le dîner. Puis là, je me dis, me semble que du tzatziki, ça serait bon.
Ça serait bon.
Je sors le pot de tzatziki, qui n'avait pas de petit papier rouge sur le dessus. Ouvre ça, j'en prends une bonne cuillerée parce que j'adore le tzatziki. En le mettant dans ma bouche, je me dis, schnook, c'est de la colle mélange. Alors, tout de suite à la salle de bain pour recracher.
Oui.
Puis, mais il n'y avait rien de grave.
Non, mais
c'est
quand même,
quand j'enseigne, je me sers de ces anecdotes-là pour introduire les principes de sécurité.
Écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent.
À quoi ressemble votre atelier, Hélène Francaire? Parlez-nous de l'espace, de l'odeur. Ça sent la colle, ça sent la mer, ça sent le papier. Qu'est-ce que ça sent? Comment on se sent?
J'imagine que ça sent un mélange de papier, carton, cuir. La colle n'a pas d'odeur. Ça sent la mer si j'ouvre les fenêtres, oui, ou si je fais sécher des algues ou quelque chose qui vient de l'extérieur, parce que ça m'arrive de temps en temps d'intégrer des végétaux dans certaines reliures. Mon atelier, celui-ci, il est petit comparé à celui que j'avais à Beauport, à peu près, je dirais, un carré de 20 par 20.
D'accord.
Et tout est très, très bien agencé. Il n'y a aucun centimètre qui est perdu. Parce qu'il faut quand même que j'ai assez d'espace pour circuler autour de la grande presse, du grand couteau.
Oui.
J'ai une grande table de travail qui mesure 4 pieds par 8.
Au centre.
Je tourne autour, comme autour d'un îlot. Et les outils, les pièces d'équipement sont distribuées autour de moi. Ce qui fait que je peux facilement me déplacer parce que mon travail, je suis toujours en mouvement. Ou presque toujours en mouvement. C'est rarement statique pendant une longue période de temps.
Mm-hmm.
Alors, je peux travailler assis sur un tabouret, debout. Je me déplace pour aller au couteau. C'est très agréable physiquement de pouvoir bouger autant.
Oui, Oui. En même temps, tout en étant, je présume, dans un espace quand même assez restreint pour ne pas justement passer nos journées à se promener à droite, à gauche.
Oui, tout est efficace. Même dans mon atelier d'avant qui était plus grand, il y avait plus d'outils, plus de classeurs, oui. mais c'était le même processus finalement.
Parlant de classeurs, vous avez acheté d'une imprimerie qui fermait toutes les lettrines, le lettrage.
Oui, j'en ai acheté. Oui, c'est ça.
C'est du matériel qu'on ne trouve plus.
On peut l'acheter neuf quand on est fortuné, ce qui n'était pas mon cas. Autrement, on l'achète usagé, soit d'un relieur qui se départit de certains tiroirs de caractère typographique en plomb, ou d'un atelier d'imprimerie. Parce que les relieurs et les imprimeurs, les imprimeurs qui travaillent à l'ancienne, là, qui impriment en caractère mobile en plomb, on se sert des mêmes caractères mobiles. Mm-hmm. Les imprimeurs vont les ancrer pour imprimer le papier, tandis que nous, les relieurs, on les fait chauffer pour transférer l'or sur le cuir ou sur la toile d'une couverture.
Mm-hmm. Et il y a l'or et il y a autre chose aussi.
Oui, il peut y avoir des pellicules de couleur. Ça peut être de l'or véritable ou alors de l'imitation qui est très, très bien faite aujourd'hui, qui ne ternit plus parce que l'or véritable coûte quand même un certain prix.
Oui, quand même. Oui. Et vous avez aussi toutes sortes de papiers.
Oui.
Vous avez déjà fait vos papiers, non?
Oui, j'ai déjà fabriqué du papier parce que finalement, avec la reliure, c'est ce qui fait que je ne me suis jamais ennuyée une journée depuis le début. Il y a tout qui m'intéressait. Comment on fabrique l'encre, comment on fabrique le papier, comment le cuir est fait, le parchemin, le carton. Tout ce qui constitue le livre m'intéressait. Et j'ai eu la chance, un été avec Denis, d'aller aux Îles-de-la-Madeleine pendant tout un mois. J'ai justement fabriqué du papier, puis je me suis dit, tiens, il y a des algues. Oui, mais la base, c'est du coton ou de l'abaca. La fibre végétale de base du papier, c'est du coton ou de l'abaca dans mon cas. Mm-hmm. Et là, je voulais intégrer des morceaux d'algues, un peu comme on fait à la papeterie Saint-Gilles avec les pétales de fleurs.
Oui, oui.
Tu sais, je me disais, je peux faire la même chose, mais avec des algues. Mm-hmm. Mais je n'avais pas le goût d'aller arracher les algues.
Oui.
Sauf qu'aux îles, il vente, il y a des belles tempêtes. Alors, je me suis dit un jour... je me suis dit un jour, je vais aller à la plage puis je vais ramasser ce que la mer m'a donné. Mm-hmm. Alors, j'ai ramassé des algues.
Oui.
Puis, il y a des gens que ça intriguait. Mais j'ai pas été... J'y ai repensé après. J'aurais pu leur dire que c'est pour faire des sushis. Mais j'étais tellement dans mon monde de papier que je leur ai expliqué, non, c'est pour intégrer dans du papier. Mm-hmm. Alors, c'est ce que j'ai fait.
Et de quelle façon votre classement de papier est fait? Est-ce que c'est par couleur, par texture, par poids?
C'est un peu de tout ça, finalement, parce que j'ai des papiers décorés, des papiers marbrés, des papiers à la colle que je mets dans un tiroir qui leur est propre. Et là, je les classe de façon à pouvoir voir l'arc-en-ciel de toutes les couleurs. Quand j'ouvre le tiroir, c'est un grand tiroir. Autrement, les papiers unis vont être classés par couleur, les blancs, les ivoires, ceux qui sont de couleur plus soutenue.
Mm-hmm.
Et je ne jette rien. Alors,
ramassez tout.
Tout, même les petits bouts. Alors, j'ai les tiroirs pour les papiers qui sont entiers. J'ai d'autres tiroirs pour ceux qui sont sous forme de retaille.
Oui.
Puis j'ai une boîte qui porte le joli nom de Thibaut Beau Papier. Je garde n'importe quelle grandeur, surface de papier. Parce qu'on ne sait jamais un jour où ça peut servir. Et c'est le cas.
C'est le cas, ça sert?
Tout à fait. Oui.
De quelle manière vous vous dites, j'ai un petit morceau cette grandeur-là, ou vous fouillez et vous trouvez ce que vous avez besoin?
Il y a un peu de tout. C'est spontané aussi. Bon, disons que j'ai un projet de carnet et puis je trouve que la couverture aurait besoin d'une petite couleur qui fait ressortir le reste. Je m'en vais fouiller dans ma boîte. Je vais trouver quelque chose.
Et d'après vous, quels sont les écrits qui sont aussi précieux, qui vont mériter d'être qu'on fabrique... un écrin?
Tout ce qui est important à nos yeux. Au fil des 35 années pendant lesquelles j'ai gagné ma vie comme relieur, moi, je travaillais pour des individus. J'ai pas voulu travailler pour des institutions ou des bibliothèques. Je préférais le contact.
Oui.
Un être humain, un livre qui vient me voir.
Mm-hmm.
Et ce que j'ai constaté rapidement, c'est que quand les gens me confient un livre, ce livre-là est important pour eux.
Oui.
Même si c'est un livre de recettes, à moitié défait, mais il appartenait à la grand-mère.
Uh-huh.
Ça peut être un album photo.
Oui.
J'ai reçu à un moment donné un ornithologue qui m'apporte son livre qui était trop épais et trop lourd pour être apporté sur le terrain. Oui. Alors, il m'a demandé de le couper en deux, d'en extraire les photos des oiseaux, puis de garder le texte à part. Okay. Ce livre-là était important pour lui.
Oui, je comprends. Est-ce que les clients arrivent avec une idée préconçue de ce qu'ils veulent ou est-ce qu'il y en a qui arrivent et qui disent « Lisez ce livre-là, c'est moi qui l'écris, en puis fait, proposez-moi quelque chose? »
J'ai rarement le temps de lire parce que je relis.
Oui?
Oui, alors c'est ça. On travaille ensemble.
OK. Donc, ils vous parlent de leur livre, du livre, du contenu?
Oui, et moi, je vais poser des questions aussi.
OK.
Alors, si c'est vous qui avez écrit ce livre-là, quelle couleur voyez-vous? Quelle matière voyez-vous?
OK.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il ressorte comme émotion quand vous allez voir la couverture? Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que c'est de la force?
OK.
Voulez-vous quelque chose de sombre, quelque chose de lumineux? Alors, on travaille ensemble. On convient du projet. Et d'une date de livraison et d'un prix. Alors,
OK.
À partir de là, tout est facile.
Est-ce que vous proposez à l'avance ce que vous allez faire?
Toujours. Toujours. Okay. À moins qu'on me donne carte blanche.
Ah oui, voilà.
Oui. Quand on me donne carte blanche, c'est autre chose. On convient du budget. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est moi qui peux choisir les matériaux et le décor.
OK. Les couleurs, la
Exactement.
Texture, tout.
Oui, oui. Mais plus souvent qu'autrement, la personne a déjà une idée.
Ah oui, d'accord.
En me confiant le livre. Et c'est à moi d'essayer de circonscrire la chose.
Hélène Francard, est-ce que vous travaillez uniquement sur des livres neufs?
Non, ça peut être un livre neuf, un livre usagé, mais aussi ça peut être un livre très ancien. Parce que quand est arrivé certains problèmes articulaires, j'ai cherché à travailler dans mon métier, à continuer de travailler dans mon métier, mais en ne faisant pas les gestes répétitifs du travail, par exemple, pour une douzaine de livres identiques.
Ah oui, d'accord.
Et je me suis intéressée à la restauration de livres anciens. Parce que le travail de restauration sur un livre ancien, c'est quelque chose de très lent, de très doux. Et les livres peuvent être, mais vraiment très vieux, genre 1550, 1560.
OK.
Alors, j'ai des trésors qui ont été déposés sur ma table, qui m'ont été confiés, des livres qui m'ont vraiment émue, des ouvrages imprimés donc en caractère typographique, illustrés avec des gravures sur bois.
Wow!
Quelquefois dans la reliure d'origine, qui accusait quand même son âge puis son utilisation. Des livres écrits en latin, en grec, des récits de voyage. Mm-hmm. C'est une part de mon métier sur la fin de cette période-là de ma vie là, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Et est-ce que vous en faites encore?
De moins en moins. Mais en fait, j'ai toujours dit oui à ce qu'on me demandait de faire. Et c'est ça qui m'a amenée dans toutes sortes d'avenues du monde du livre.
Hélène Francard, vous avez été lauréate du concours organisé par la Bibliothèque nationale du Canada pour la création de son livre d'art et vous avez reçu le William Coley Award for Fine Binding de la Canadian Bookbinders and Book Artists Guild.
Oui, bravo.
Oui, merci. Qu'est-ce que représente ce prix pour vous?
Le tout premier... C'était en tout début de carrière et je vois qu'il y a un appel pour créer le livre de signature pour la bibliothèque à Ottawa. Alors, j'étais encore un peu timide, mais je me dis, allez, Hélène, vas-y.
C'était au début de votre carrière?
Au tout début, là.
Ah oui, d'accord.
Au tout début. Alors, il fallait présenter un prototype de façon à prouver qu'on savait faire de la reliure, coudre, que le papier était dans le bon sens, bon, tout ça. Alors, je fais un prototype et puis j'ai toute une démarche parce que on représentait le Canada. C'est le livre de signature pour la Bibliothèque nationale. Okay. Alors, sur le dos de la couverture, il y a les tranches, les faunaires normalement qui sont au nombre de 4 à 6. Mais moi, j'en ai mis 11, les 10 provinces canadiennes, le territoire du Nord-Ouest. Puis la tranche-file, je l'ai brodée à la main en bleu et rouge parce que c'est un pays bilingue. Alors, je me prenais très au sérieux. Il y avait la démarche.
Oui, c'est ça, c'est artistique.
J'aimais bien l'histoire. Alors, je soumets mon prototype et je suis retenue. Je me souviens encore de la joie que j'ai ressentie. Alors, je fais le vrai livre qui était d'un plus grand format et je le renvoie, je suis payée, je suis très contente pour apprendre après que j'étais la seule à avoir soumis un projet.
Non! Alors, je demandais qu'est-ce que ça représente pour vous.
Mais sur le coup, j'étais tellement déçue. Je me suis dit, ah, flûte, c'est pas moi la meilleure. Mais quand même, j'avais aimé la création. J'avais aimé la démarche artistique, tout ce qui était important pour moi dans cette reliure-là.
Oui.
Et je pense que c'est là que ça a commencé, de créer des livres, parce que j'ai pas que relier des livres pour les clients. Je participe aussi régulièrement à des expositions de reliure d'art.
Oui.
Parce que je trouve que c'est à la fois important et intéressant. Important pour moi-même en tant qu'artiste d'apprendre de nouvelles techniques, pas de m'obliger, mais de m'inviter à aller plus loin que ce que j'ai déjà fait.
Oui.
Et je trouve ça intéressant aussi parce que quand on participe à des expositions, comme ça, on rencontre les confrères, les consoeurs.
Oui.
On voit comment eux travaillent.
Mm-hmm.
C'est très enrichissant. J'ai toujours vu ça comme étant non pas une compétition, mais une collaboration.
Oui.
Faire partie d'une famille.
Et aussi, ça doit être intéressant de sortir de son atelier puis de montrer aussi ce qu'on fait, parce que sinon, ça devient un travail, je dirais, très intime, c'est-à-dire entre vous, vos élèves et vous, vos clients.
Oui, tout à fait. J'ai souvent décrit l'atelier comme étant un lieu d'une relative solitude. Oui, je travaille seule, mais je rencontre des clients, moins maintenant, mais plus souvent que maintenant avant, et les élèves aussi. Et d'aller dans un événement officiel, on a le vernissage, on s'habille bien, il y a le sens de la fête que je trouve important.
Mm-hmm.
Et justement, de faire le tour des autres reliures d'art, de nouer des amitiés au-delà des frontières, des gens qu'on sait qu'on va revoir dans un an ou deux.
Oui, parce que vous faites aussi des expositions internationales.
Oui. Il y en a eu en France, au Canada aussi, mais c'est une confrérie planétaire.
Oui. C'est un peu comme, je présume, les auteurs et avec
les salons du livre. Hein? Oui, effectivement. Mm-hmm.
Et vous êtes membre aussi des trois associations de relieurs.
Oui, il y a l'Association québécoise des relieurs et des artisans du livre, la CRAL, qui est basée à Montréal. Et il y a ARA Canada, qui est pan-canadienne, et aussi, ce qu'on disait tantôt, Canadian Bookbinders and Book Artists Guild, affectueusement appelée CBBAG.
OK.
Et c'est une organisation qui est majoritairement anglophone. ARA Canada est plus bilingue, puis la CRAL est très québécoise. Alors, c'est important pour moi de faire partie de ces associations-là, pour soutenir leur effort. J'ai déjà fait partie de conseils d'administration d'ARA Canada, par exemple, et je sais de l'intérieur à quel point c'est important que les relieurs deviennent membres, nous soutiennent, nous accompagnent, parce que nous, on est là aussi pour organiser des expositions pour qu'eux puissent montrer leur travail. Ça se fait dans les deux sens, finalement.
Et parlant justement d'implication, vous êtes membre des cercles de fermières aussi.
Oui, à Saint-Fabien. Quand je suis arrivée là, en 2013, je connaissais presque personne. Et puis, c'est une amie qui m'a conseillé de devenir membre du Cercle des fermières pour faire des premiers contacts, puis aussi me retrouver avec des artisanes pour qui la transmission des savoirs est très importante.
Oui.
Alors, même si moi, je suis relieur, je travaille quand même avec une aiguille, du fil, je couds. C'est aussi un travail qui est proche des tisserandes, par exemple.
Oui.
Alors, je me suis toujours sentie très bien avec les fermières de Saint-Fabien. Je leur ai donné, d'ailleurs, l'année dernière et l'année d'avant, des ateliers de reliure. Mais c'est un public en or. Ces femmes-là sont d'une patience incroyable. Défaire ne les rebute pas. Si c'est pas parfait, elles recommencent.
Pour vrai?
Ah oui.
Wow!
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ça. Vous êtes aussi... vous avez fait de la médiation culturelle récemment, la bibliothèque de Saint-Fabien.
Oui.
Parlez-nous de ces lieux-là de transmission. Je sais que c'est important pour
vous. Oui, c'est important pour moi. Par exemple, les Journées de la culture. Je participe aux Journées de la culture depuis qu'elles sont nées. Tellement je trouve ça important d'ouvrir gratuitement son lieu de création à des gens qui nous découvrent souvent. Il y a aussi, dans mon village, qui est un tout petit village, 1834 habitants, on a la chance d'avoir...
Précisément.
Oui, je l'ai lu dernièrement. C'est pas que ma mémoire est parfaite, mais je l'ai lu dernièrement. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui est quand même ouverte 3 demi-journées par semaine. Mm-hmm. Alors, quand je suis arrivée là, je me suis dit, il faut que j'aille me présenter, que je leur dise ce que je fais. Je peux réparer leurs livres, je peux donner des ateliers... Et c'est ce que je fais régulièrement. Encore en septembre cette année, j'ai fait les Journées de la culture. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance d'avoir 8 participantes, ce qui est beaucoup pour un petit village.
Oui, effectivement.
Oui.
Absolument. Mm. Et vous avez dit, Hélène Francœur, ma façon d'aborder l'art sous toutes ses formes, sur toutes ses facettes, pardon, est d'enrichir le monde. Pour moi, c'est important que les arts apportent de la joie au monde.
Oui, oui, effectivement. Quand je prépare une reliure d'art, mais encore, c'est encore plus présent pour moi quand je fais un livre d'artiste, par exemple. Je souhaite offrir l'occasion d'apprendre. Il faut que ça soit ludique et didactique en même temps. C'est ce qui me plaît. Que ça fasse sourire, que ce que je produis amène un peu de joie ou de lumière autour de moi. Je ne crée pas dans la souffrance, même si j'ai déjà écrit un poème d'amour après, une peine d'amour. Mais en général, je vais créer dans la joie parce que je veux transmettre quelque chose.
Mm-hmm. Et est-ce que vous croyez que ce que vous voulez transmettre est perçu?
J'ose croire que oui. Je vois la réaction des gens. Chacun perçoit à sa façon, j'en suis certaine. Certains reviennent vers moi puis me posent des questions. Et oui, mais j'ai l'impression que c'est bien perçu certainement d'une façon ou d'une autre.
Oui, oui, mais est-ce qu'on vous en parle? Parce que je comprends bien que le côté ludique est quand même dans la joie, dans une forme un peu de légèreté, si je peux me permettre.
Oui.
Mais il y a aussi le côté plus didactique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une façon de faire. On ne peut pas faire ce qu'on veut de la façon dont on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais pas de la façon dont on veut,
ben,
peut-être.
Oui, des fois, dans le livre d'artiste, on peut vraiment s'éclater. Dans la reliure d'art, c'est plus codifié. Mais dans le livre d'artiste, on peut vraiment s'éclater. On peut sortir de la forme du livre. On peut faire un livre rond, un livre qui se déplie, insérer des matériaux qui sont inhabituels, par exemple.
Mm-hmm. Et puis, est-ce que vous avez, en terminant ce segment-ci, est-ce que vous avez une bibliothèque de beaux livres chez vous?
C'est surtout Denis qui a une bibliothèque de beaux livres parce que mon amoureux est un boulimique de la lecture. Il a présentement dans sa bibliothèque 900 livres papier.
OK.
Et à peu près la même chose en livres numériques.
Oui.
Moi, dans ma petite bibliothèque, j'ai surtout des ouvrages de référence sur la reliure, l'histoire du livre, le papier, tout ce qui concerne mon métier finalement.
En visitant votre site Internet, on peut lire Relieresse, restauratrice de livres anciens, on en a parlé un petit peu plus tôt, papetière, production de papier décoré à la colle, livres d'artistes et tout. Qu'est-ce que du papier décoré à la colle?
Oui, c'est une technique de décoration du papier qui est très ancienne, qui remonte en Italie, je pense que c'est le 15e siècle, je ne suis pas certaine de ça. C'est une façon de décorer le papier qui est très facile parce qu'on fabrique de la colle de pâte avec de la fécule de maïs ou de la farine. Et
la colle qu'on peut manger, non?
Oui, c'est excellent. On peut la manger, celle-là, oui, sans problème, parce qu'il n'y a pas de colle plastique qui a été rajoutée dedans. Alors, on prend une grande feuille de papier pour vous expliquer simplement la technique. On prend une grande feuille de papier. Disons qu'on veut travailler avec 3 couleurs. On a fait notre colle qui est refroidie. On prend 3 petits contenants. On met un peu de colle dans chacun des contenants. Et on rajoute de l'acrylique, chacune des 3 couleurs avec lesquelles on voulait travailler, dans les petits pots. On mélange la colle avec l'acrylique. Donc, on a de la colle colorée. Ensuite, oui, avec des pinceaux, on distribue la couleur ou les couleurs sur le papier. On fait des motifs.
Mm-hmm.
On laisse sécher,
oui,
et ça devient un papier à la colle. Parce qu'une fois sec, à cause de l'acrylique qu'on a utilisé, c'est un papier qui n'est pas perméable. On peut donc, oui, s'en servir pour les couvertures de livres, par exemple.
Mm-hmm. OK.
Et ça se fait facilement en atelier, sans équipement spécialisé. contrairement au papier marbré, qui est une autre façon de décorer le papier, qui est beaucoup plus complexe.
C'est-à-dire?
Et, alors, on imagine un bac, comme un grand plat à lasagne, par exemple, mm-hmm. dans lequel on a mis de l'eau qu'on a épaissie, de façon à ce qu'elle puisse supporter les couleurs qu'on va jeter sur le bac.
OK, les couleurs sur toujours l'eau. En acrylique?
Non, là, ce sont des encres d'imprimerie ou de la gouache.
OK.
Et je vous invite à faire des recherches Internet. Faites papier marbré, faites papier à la colle. Vous allez voir de très
Avec
beaux
plaisir.
Gestes. Vous allez voir de très beaux gestes. Alors, on distribue les couleurs sur la surface de l'eau qui, parce qu'elle est épaissie, va maintenir les couleurs en surface. Et là, on prend une feuille de papier et on couche la feuille de papier sur les couleurs qui s'impriment sur le papier.
Ah oui, je vois.
Oui.
C'est magnifique.
Oui.
Et c'est pas des techniques que vous avez, que vous avez développées, mais que vous avez apprises.
Oui, j'ai appris les deux techniques à Québec. Je ne me souviens plus précisément de l'année, mais le groupe de relieurs de Québec, on a eu la chance de faire venir Montse Buxo, qui est une marbreur de papier extraordinaire qui vient d'Espagne. Alors, pendant toute une semaine, on a appris à marbrer le papier. J'ai encore quelques-uns des papiers que j'ai produits à l'occasion de ce stage, mais c'est pas quelque chose que je peux faire facilement dans mon atelier. J'aurais besoin d'une pièce à part parce que les couleurs volent un peu partout.
Ah oui, d'accord.
Le papier à la colle, c'est très facile à apprendre, c'est très facile à enseigner, puis c'est facile à faire. Il n'y a pas de produit qui sent très fort.
OK. Et par là d'enseignement, vous aimez initier les jeunes à ce stade-ci de votre carrière?
Oui.
Et c'est une question de transmission. Est-ce que vous croyez que ça va développer des passions?
J'ose croire qu'il y a des graines qui auront été semées, d'autant plus que les enfants, aujourd'hui, ont un rapport au livre qui est très différent de celui que moi, j'ai pu entretenir quand j'étais petite. Les enfants d'aujourd'hui sont plus devant un écran. Alors,
oui,
quand on
vrai.
Leur... Mais justement, c'est à cause de ça qu'ils sont très intéressés par le livre, parce que là, on leur dit, tu peux, avec tes mains, du papier, du fil, puis une aiguille et des ciseaux, faire ton propre livre.
Oui.
Et ça fonctionne toujours. Ils sont toujours très, très, très heureux de constater à quel point, oui, c'est facile.
Mm-hmm. Est-ce que vous croyez, justement, c'est intéressant, vous nous amenez sur une piste, est-ce que vous croyez que, justement, la technologie et tout va mettre à péril ou à mal cette profession extraordinaire?
J'espère que non. Ce que je constate, c'est que il va y avoir des changements, c'est certain. Mais avec l'effet de balancier, ce que j'observe actuellement, c'est un regain d'intérêt pour tout ce qui est fait à la main. Le papier fait à la main, la reliure, l'impression, la gravure, la linogravure. Mm-hmm. Ce sont des choses qui intéressent beaucoup les jeunes, je dirais, dans ce que moi je vois, là, 20 ans, 30 ans.
Est-ce que vous croyez que c'est une raison écologique ou c'est un intérêt artistique?
Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça, le souci de l'environnement.
Mm-hmm.
Et quand même la satisfaction de produire soi-même.
Oui.
Quelque chose qu'on peut offrir en cadeau au lieu de l'acheter.
Oui.
Et souvent en utilisant des papiers de récupération mm-hmm. ou du tissu de récupération.
Oui. De plus en plus, c'est vrai qu'on récupère pour faire de l'art.
Hein? Énormément.
Craignez-vous, Hélène Francoeur, les pannes de créativité après 35 années?
Les pannes de créativité. J'ai parfois une lenteur à créer. J'appellerais pas ça une panne, c'est que je sens que c'est pas prêt encore. Alors, si j'ai, par exemple, carte blanche pour une reliure ou que, de la part d'un client, je veux dire, ou que je me prépare parce que je me suis inscrite à une exposition, il faut absolument que je produise quelque chose. Là, ce que je fais, je sors quelques matériaux, je les laisse vivre sur ma table de travail, je commence à faire des esquisses. C'est un long processus. Et j'ai constaté qu'au fil du temps, les choses prennent leur place.
Oui.
Et moi, je vais aussi prendre la mienne. Et puis, souvent, en allant marcher, par exemple, les choses... Je fais le ménage dans ma tête quand je vais marcher.
Oui.
Et je reviens avec des idées.
Mm-hmm.
Et ça continue. En fait, je pense que j'ai pas vraiment connu de panne.
Est-ce que vous croyez, Hélène, que vous avez encore des choses à apprendre?
Oh, bien oui, certainement. Oui, oui, toujours, toujours. Il y a toujours de nouvelles techniques. Si on ne parle que de la reliure, là, oui. De nouvelles techniques, je vois passer avec Internet maintenant, c'est incroyable. On voit, je fais partie de plusieurs groupes de relieurs.
Oui.
Et les gens sont tellement heureux de montrer ce qu'ils viennent d'inventer ou d'essayer, puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que oui. quelqu'un peut m'aider?
Mm-hmm.
La famille est encore plus vivante, je trouve.
Et la dernière question que j'aime bien poser, Hélène, c'est qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin?
La journée de plus que j'ai dans ma vie. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je vais faire avec?
Mm-hmm. Et ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à quoi? Admirer le paysage, être heureuse avec mon amoureux.
Mm-hmm.
Des choses simples comme prévoir le menu du soir. Descendre à l'atelier, souvent en pyjama, tôt avant le petit déjeuner, pour quelquefois faire juste un encollage qui va pouvoir sécher pendant que je déjeune, puis continuer ma journée après. Ça se passe en douceur.
Merci beaucoup, Hélène Francœur, pour d'avoir accepté notre invitation.
Bien, merci à vous.
C'est déjà ici que prend fin l'émission. On peut visiter votre site Internet. Mmh. Donc, Hélène Francœur?
Oui, www.hfrancœur.com.
Merci. Merci à toute l'équipe. Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.